Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Pas facile de prendre le relais après les paillettes de Cannes, surtout s'il s'agit de parler, comme cela est écrit en introduction de l'édition 2015 du rapport Cyclope, de ces navires qui errent désespérément sans boussole et dont les cloches sonnent dans la brume. C'est pourtant ce que nous allons faire dans une version raccourcie de Géopolitique pour cause donc de palmarès du Festival de cinéma. Le rapport Cyclope sur les marchés mondiaux de matières premières vient de paraître aux éditions Economica avec cette question. Pour qui sonne le glas? Nos invités, Philippe Chalmin, coordonnateur du rapport Cyclope, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Bonjour.
Bonjour.
Et Francis Perrin, président de stratégie et politique énergétique, directeur de la publication et rédaction Pétrole et gaz arabe. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Chalmin, 2014 est une année que vous définissez dans le rapport que vous avez dirigé comme une année de contre-choc sur les marchés mondiaux des matières premières et des commodités, avec recul spectaculaire des principaux indices entre 20 et 40%, sans compter le pétrole qui a enregistré une division par deux de son prix. Quel rôle la géopolitique a-t-elle eu sur la conjoncture des marchés, sur ces contre-chocs que vous évoquez et que révèle finalement la chute des prix des matières premières?
La géopolitique, bien entendu, joue un rôle essentiel sur la plupart de nos marchés. Et je pense que quand nous aborderons ce qui a été la grande nouvelle de l'année, le contre-choc pétrolier, la dimension géopolitique est importante. Maintenant, ça n'est pas tout. Et au fond, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est véritablement la fin d'un choc global sur les marchés qui avait commencé quelque part vers 2005-2006 et qui a duré grossièrement jusqu'à 2014, et il passera probablement dans les livres d'histoire comme le choc de 2006-2014, un peu identique à ce que l'on avait connu dans les années 70. Là, la géopolitique joue, bien entendu, mais ce qui joue avant tout, ce sont les logiques offre-demande. Et c'est la réaction, au fond, de l'appareil d'offre, c'est-à-dire des producteurs, à des périodes de prix élevées, qui ont amené, d'une part, des investissements en capacité de production nouvelle, et puis qui ont favorisé des innovations technologiques, à l'image, par exemple, de la révolution énergétique que les États-Unis ont connue, et qui est, au fond, au moins autant que la géopolitique, à l'origine du contre-choc pétrolier. Et donc, attention à ne pas tout mettre sur le champ de la géopolitique. Nous avons eu aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que ce mouvement risque de perdurer assez longtemps, ben on a eu un retour des productions avec des investissements, on a construit des navires nouveaux, on a investi dans des capacités, dans des champs pétroliers, éventuellement non conventionnels, on a ouvert de nouvelles mines, on a développé de nouvelles productions agricoles, le climat a été optimal en 2014 en plus, et effectivement, nous avons un recul général. Alors, derrière l'arbre du pétrole, il y a la forêt, du gaz naturel, du minerai de fer, du nickel, des produits laitiers, des viandes, de la plupart des produits agricoles. Et au fond, il est presque plus simple de voir les quelques exceptions que peuvent être le cacao, l'huile d'olive, les amandes ou les noisettes.
Alors, Philippe Chalmin, avant de parler du pétrole avec Francis Perrin, rapidement et pour bien comprendre, la chute des prix des matières premières, qu'est-ce qu'elle révèle? Échec du développement? Des politiques de développement?
La chute des prix des matières premières laisse malheureusement un certain nombre de gens tout nus. Elle est une illustration d'une thèse que je développe depuis longtemps, même si elle fait mal à nos amis africains, qui est cette thèse de la malédiction des matières premières. Vous ne bâtissez pas des stratégies de développement économique sur la seule production de matières premières, ni même d'ailleurs sur leur première transformation. Ne nous faisons pas d'illusions. Et malheureusement, nous avons encore rêvé dans ces années-là que on pouvait acheter le développement grâce à un prix du pétrole élevé, grâce à un prix des minerais et métaux élevés, etc. Malheureusement, c'est faux. Et lorsque l'on regarde la situation de nombre de pays producteurs, non seulement, pour reprendre la citation que vous utilisiez, non seulement les navires errent désespérément dans la tempête, mais surtout, ils sont tout nus sur la plage.
Francis Perrin, le pétrole, le facteur géopolitique a surtout été déterminant dans le champ de l'énergie, en même temps qu'il révélait des déséquilibres préexistants, vous allez nous en parler. La situation de fortes tensions géopolitiques, particulièrement au Proche-Orient et au Moyen-Orient, laissait plutôt entendre une augmentation des prix du pétrole. Il n'en a rien été. Il est tombé, ce pétrole, à $50 le baril, pour légèrement remonter à 70. Je parle sous votre contrôle. Le rôle de l'Arabie Saoudite a été essentiel dans cette baisse pour compenser d'une certaine manière l'indépendance énergétique des États-Unis. Riyad a voulu gagner des parts de marché en Asie, c'est cela qu'il faut comprendre. Et dans quelle mesure la baisse des prix du pétrole remet-elle en cause finalement les équilibres ?
Philippe Chalmin évoquait tout à l'heure, en parlant des matières premières en général, l'influence de facteurs géopolitiques, de facteurs technologiques et de facteurs liés au marché, l'évolution de l'offre et de la demande. Pour le pétrole, évidemment, matière première stratégique par excellence, on retrouve la combinaison de ces différents facteurs, mais la pondération peut être différente selon le temps. Vous l'avez rappelé à juste titre, les crises, elles sont très nombreuses. Mmh. Au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, Russie, Ukraine, pour ne parler que de certains pays et zones importants sur le plan pétrolier, sur le plan gazier également, auraient dû normalement pousser les prix à la hausse, s'il n'y avait que la géopolitique qui comptait. Et cette géopolitique, elle a maintenu entre 2011 et 2014, premier semestre en tout cas, les prix du pétrole à un niveau élevé, plus de $100 par baril. Ça a beaucoup compté. À partir de l'été 2014, la géopolitique a quasiment disparu de l'horizon des opérateurs sur les marchés pétroliers, les traders. Pourquoi ? Parce que depuis, ceux-ci ne voient que l'excédent de l'offre sur la demande. Excédent de l'offre qui vient de la production constamment en hausse depuis plusieurs années des États-Unis et du Canada grâce au pétrole non conventionnel. Et cet excédent de l'offre sur la demande, qui a été la principale raison de la chute des prix, a effacé les préoccupations, très temporairement bien sûr, les préoccupations géopolitiques au moment où la guerre fait rage en Libye, en Syrie, au Yémen et où plusieurs autres pays de cette région sont traversés par des tensions extrêmement fortes, sans parler d'autres pays dans d'autres régions. Donc on a, depuis l'été 2014, un relatif effacement de la géopolitique dans la détermination et la fixation des prix du pétrole. Ce n'est évidemment que temporaire. Pour l'instant, tant que l'excédent n'est pas résorbé par une augmentation de la demande, par une baisse de l'offre, les marchés vont rester fixés sur le rapport offre-demande. L'Arabie Saoudite, puisque vous l'évoquiez, n'a pas voulu la chute des prix, elle n'a pas provoqué la chute des prix, elle n'a pas du tout augmenté sa production en 2014, elle n'a pas varié d'un iota.
Elle ne l'a pas baissé non plus.
Elle ne l'a pas baissé, voilà, exactement. L'excédent de production est venu des États-Unis et du Canada. Et traditionnellement, l'Arabie Saoudite en particulier, l'OPEP en général, disait « quand les prix chutent, on réduit notre production, donc on réduit l'offre mondiale et on tente de faire remonter les prix ». La grande nouveauté à l'automne 2014 a été que l'Arabie Saoudite d'abord et l'OPEP ensuite, le 27 novembre 2014, ont dit « nous ne jouons plus à ce jeu-là, nous refusons de baisser notre production, nous laissons filer les prix à la baisse ». Ça, c'est effectivement un changement de stratégie pétrolière tout à fait considérable de la part de l'Arabie Saoudite et ensuite, mais il n'avait pas vraiment le choix, de la part de l'OPEP, puisqu'on sait très bien que l'Arabie Saoudite est le leader de fait de l'OPEP. Il n'y a pas de leader au sein de l'OPEP. En théorie, tout le monde a une voix. Mais quand vous êtes l'Arabie Saoudite, évidemment, vous pesez d'un poids très important, d'autant plus que l'OPEP, il faut une décision unanime. Il suffit qu'un seul pays ne soit pas d'accord pour qu'aucune décision ne puisse être prise.
Alors, Francis Perrin, quelle perspective pour le pétrole en 2015 ? Combien de temps cette baisse va durer ? Le niveau à 50 ou 70 dollars le baril pour le pétrole. Évidemment, l'actualité, je vous ramène à la géopolitique, j'en suis désolée, mais il faut qu'on comprenne. Le rapprochement entre l'Iran et les États-Unis en cours, avec les négociations sur le nucléaire iranien qui pourraient aboutir, résultat en tout cas attendu le 30 juin. L'entrée de l'Iran sur le marché pétrolier, quelles conséquences en attendent ?
Alors, c'est une très bonne illustration, justement, du retour prochain de la géopolitique. Mais là, ce sera un facteur baissier pour les prix. Ce ne sera pas un facteur qui va faire monter les prix. Si l'accord final sur le programme nucléaire iranien est conclu, comme il est probable, d'ici la fin du mois de juin, évidemment, vu des marchés pétroliers à Londres, à New York, à Singapour, on va dire, ça y est, l'Iran va pouvoir revenir, l'Iran va pouvoir se débarrasser des sanctions qui pèsent très lourdement depuis des années sur son secteur pétrolier et gazier. Et l'Iran a clairement affiché la couleur. Nous voulons augmenter notre production de pétrole, notre production de gaz, nos exportations de pétrole, nos exportations de gaz pour reprendre nos parts de marché historiques. Nous voulons avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de recettes en devises. Nous voulons développer des gisements. Nous voulons faire appel aux plus grandes compagnies pétrolières mondiales. mondial. Cela aura clairement un impact baissier sur les prix du pétrole. C'est bien un facteur géopolitique majeur. Si l'Iran obtient cet accord, se débarrasse des sanctions, cela aura des conséquences sur le marché du pétrole et le marché du gaz, mais pas à la hausse comme le souhaiteraient les autres pays producteurs. Et c'est un problème pour l'OPEP qui devra gérer le retour de l'Iran en force avec la montée en puissance de l'Irak qui elle est déjà inscrite dans les faits et qui va continuer.
Philippe Chalmin, je me tourne vers vous à nouveau. La baisse des prix du pétrole, le retour de l'Iran sur le marché pétrolier, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde.
Écoutez, il y a des heureux et des malheureux. Les heureux, je le rappelle, ce sont tous les pays, notamment en développement, qui n'avaient pas de pétrole. Le nord de l'Afrique subsaharienne, par exemple, des pays comme le Sénégal, etc., sont du bon côté de la barrière, puisque eux, ils étaient des importateurs. Par contre, un certain nombre de pays, modèle Angola, qui faisaient illusion par leur taux de croissance, le retour sur Terre ne va pas être évident. Nous savons que le prix du baril permettant d'équilibrer les budgets d'un certain nombre de producteurs, alors la moyenne pour l'OPEP doit traîner aux alentours de $100 le baril.
À peu près 105.
Voilà, je pense que l'Iran est à 130, le Venezuela 160. Moi, j'avais fait des calculs sur l'Algérie au moment de l'élection, que le budget algérien, il s'équilibrait à 170. On me dit beaucoup moins aujourd'hui, très bien. Mais il y a effectivement un certain nombre de pays qui se retrouvent à tirer la langue, avec la grande différence entre les cigales et les fourmis. Il y a un certain nombre de cigales qui n'ont pas un sou. Le Venezuela en est le type. Absolument. Même. Il y a des fourmis qui ont des poches relativement pleines, mais même l'Arabie Saoudite, c'est pas infini. Enfin, ils ont 750 milliards de dollars de réserves. Ça permet de voir venir. Alors, il y a un point quand même sur lequel je voudrais revenir. Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, mais je pense quand même que lorsque l'Arabie Saoudite modifie en juillet 2014 sa stratégie, elle n'a pas pu le faire sans la bénédiction, sinon des États-Unis, au moins de la Maison Blanche. Car finalement, quel est le pays qui a été touché de plein fouet? C'est surtout la Russie. Et nous sommes, à l'époque, toujours d'ailleurs, en plein conflit autour de la Crimée et de l'Ukraine.
Francis Perrin.
Pour moi, ça a plus été une conséquence qu'une cause du revirement de l'Arabie Saoudite en matière de stratégie pétrolière. Ce changement a d'abord été un changement pétrolier économique, en disant « nous voulons conserver nos parts de marché, notamment en Asie, marché capital, et nous n'allons pas laisser les pays non-OPEP profiter de nos efforts de réduction de production et pendant ce temps, maintenir leur production, ne rien faire et nous prendre des clients. » Ça s'est passé à plusieurs reprises dans le passé. L'Arabie Saoudite ne veut plus jouer ce jeu.
Il fallait séduire l'Asie.
En faisant cela, l'Arabie Saoudite sait très bien, en laissant filer les prix à la baisse, qu'elle va pénaliser, pas uniquement, mais notamment l'Iran et la Russie. Et cela ne lui fait pas de peine. Les rivalités avec l'Iran sont bien connues. La Russie, il n'y a pas toujours de mauvaises relations entre Moscou et Riyad, mais la Russie est avec l'Iran le principal soutien du régime de Bachar al-Assad, dont l'Arabie Saoudite a juré la perte. Donc par conséquent, oui, les Saoudiens sont conscients que laissant filer les prix, ils affaiblissent certains pays avec lesquels les relations sont délicates et ils s'en réjouissent. Mais ce n'est pas la cause de leur changement de stratégie en 2014, c'est vraiment des aspects pétroliers et bien sûr économiques derrière, mais ces aspects pétroliers produisent des dividendes politiques et les Saoudiens disent, si on a ça en plus, on le prend, c'est très bien.
On est en plein dans la géopolitique. Quelques mots sur le Nigeria, toujours à propos du pétrole, devenu en 2014 la première économie du continent, prenant la place de l'Afrique du Sud, très affectée par les baisses du prix du pétrole, le Nigeria.
La dépendance, Philippe Chalmin évoquait tout à l'heure la malédiction des ressources. Pour certains pays africains, le Nigeria est, j'allais dire, un superbe exemple, superbe intellectuellement, évidemment tragique par ailleurs. Une dépendance absolument énorme vis-à-vis des exportations d'hydrocarbures, essentiellement le pétrole, même si le Nigeria exporte également du gaz sous forme de gaz naturel liquéfié. Grande dépendance par rapport aux recettes budgétaires, impact négatif sur la croissance économique. C'est tout à fait dramatique pour un pays comme le Nigeria, pour un pays comme l'Angola également, en Afrique du Nord pour la Libye qui est déjà dans une situation catastrophique. L'Algérie a d'importantes réserves de change, donc il y a un petit peu de temps, mais le temps passe vite. Mais pour le Nigeria, c'est tout à fait dramatique et ça illustre une fois de plus la nécessité pour ce pays de diversifier son économie. Le Nigeria a un potentiel minier important, un potentiel dans beaucoup de domaines, des hommes d'affaires, une classe moyenne extrêmement dynamique. Il est absolument inconcevable que ce pays continue à dépendre à ce point en termes d'exportation. Les hydrocarbures, c'est quasiment 98-99% des exportations du Nigeria. Oui, alors, en 2015, c'est invraisemblable.
Je serais peut-être un peu moins négatif sur le Nigeria, parce qu'il me semble justement qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au Nigeria en dehors des hydrocarbures. Et puis, je voudrais rappeler à Francis que dire que le développement minier peut être une chance, de grâce non, allez voir la République démocratique, entre guillemets, du Congo.
Très rapidement pour conclure, baisse des cours des matières premières, fragilité de l'économie mondiale, ralentissement des émergents. Vous parlez de l'implosion des BRICS, avec un Brésil qui patine dangereusement, la Russie, vous l'avez évoqué, dont le chemin est semé d'embûches. En couverture de l'édition 2015 de Cyclope, vous posez la question de savoir pour qui sonne le glas. Philippe Chalmin, pour qui sonne-t-il ce glas?
C'est un peu le glas de la mondialisation heureuse. Nous avons pensé, dans la première décennie du 21e siècle, que ça y est, on avait tout gagné, que grâce à la hausse des prix des matières premières, un certain nombre de pays allaient rattraper leur retard, etc. Soyons honnêtes, aujourd'hui, le glas, il est géopolitique. Le glas, il est effectivement celui des émergents, et cet acronyme BRICS n'a vraiment aucun sens. L'Afrique du Sud n'a jamais été un pays émergent, le Brésil est en récession, la Russie n'était qu'un émirat pétrolier, alors il nous reste l'Inde, et puis alors un pays dont on n'a absolument pas parlé, totalement central encore dans Cyclope, c'est la Chine. Et la Chine, les nouvelles ne sont pas si mauvaises que cela, et nous faisons le pari que Xi Jinping va réussir dans son pari, c'est le cas de le dire, de la nouvelle normalité chinoise. Donc, on pourrait dire aussi que le glas sonne sur les tentatives de négociations internationales, les accords de Doha sont totalement calaminés, etc. J'espère seulement qu'il ne sonnera pas totalement sur ce sujet important dont on parlera à la fin de l'année à Paris, c'est-à-dire les négociations climatiques, quoique l'effondrement et l'inexistence quasiment du marché du carbone montrent bien que pour l'instant, il n'y a pas de véritable volonté. Et c'est vrai que l'une des conséquences du contre-choc pétrolier et énergétique, car le prix du charbon, le prix du gaz naturel, mais le charbon, c'est dramatique, c'est effondré, ben, l'une des conséquences, on le sait, ça va être de rendre d'autant plus difficile la vertu climatique.
Francis Perrin, le
alors,
charbon...
Alors, qui sonne le glas, cela peut être aussi pour l'OPEP. Les prix du pétrole sont bas, vous l'avez rappelé en introduction. Ils ont remonté dans les dernières semaines. On est ces derniers jours à 66, 67 dollars par baril. C'est mieux que les 50 du début de l'année, mais c'est pas les 115 de juin 2014. Donc la baisse reste quand même tout à fait importante.
Et elle va s'accentuer, si je vous ai bien compris.
Alors, il y a des risques avec le retour de l'Iran, s'il est confirmé, bien sûr. Il y a donc toujours la montée en puissance de l'Irak. L'Irak et l'Iran sont deux États membres de l'OPEP. Il y a 12 pays membres. Et ces deux États disent, compte tenu de notre histoire politique très particulière, guerre, sanctions, etc., nous ne voulons pas être contraints par une limite de production. Tous les pays membres de l'OPEP ont un quota. Ils ne doivent pas dépasser tel plafond de production. Très clairement, Bagdad et Téhéran, qui sont au moins d'accord sur ce plan-là, disent « Nous avons le droit de produire beaucoup plus, d'exporter beaucoup plus dans les années qui viennent, et ce sont les autres pays de l'OPEP qui doivent nous faire de la place. » Les autres pays de l'OPEP ne sont pas forcément d'accord. Donc gérer la montée en puissance de l'Irak, le possible retour de l'Iran, dans un contexte de prix du pétrole bas, je ne dis pas qu'il ne faut pas enfoncer un clou dans le cercueil de l'OPEP, qui n'est pas encore morte, qui existe depuis plusieurs décennies, et qui a survécu à des crises redoutable. Mais en tout cas, la partie est et sera très difficile pour l'OPEP gérer ce double retour dans un contexte de bas prix du pétrole, dans un contexte d'une économie mondiale qui n'est pas extraordinairement dynamique. C'est quand même la quadrature du cercle.
Nous reparlerons de cette question. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Philippe Chalmin, coordonnateur du rapport Cyclope, qui vient de paraître donc aux éditions Economica, qui est publié en français, en anglais et pour partie en chinois, et qui est disponible sur Internet à l'adresse suivante www.cercle-cyclope.com. Philippe Chalmin, qui est, je le rappelle, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine et président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Merci aussi à Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique, directeur de la publication et rédaction Pétrole et Gaz Arabe. Concernant Géopolitique, vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À la semaine prochaine.